pour cette nouvelle émission sur FM Plus 91 FM à Montpellier pour l'émission L'Aréopage. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur Pierre Vineau pour un de ses nouveaux livres, car ce n'est pas le premier, Pierre, nous allons le voir. Vivre sa vie et non la subir, les 10 clés d'une intelligence intégrative pour réussir sa vie. Un essai, Pierre Vineau. Bonjour.
Bonjour.
Alors, ce n'est pas votre premier livre, vous êtes déjà essayé à l'écriture, Pierre.
Oui, je ne suis pas un écrivain professionnel, mais effectivement, j'ai beaucoup écrit dans la vie des articles, des recherches. Et puis deux petits livres qui étaient sur une thématique qui était à la mode à l'époque, qui était la prise de la retraite. Dans les entreprises, ils faisaient des formations pour préparer les gens à la retraite. Et comme j'animais ce genre de formation à certains moments, j'ai eu envie d'écrire un livre pour en donner les clés.
Alors là encore, il s'agit de clés, 10 clés. 10 clés, une sorte de trousseau pour accéder à une vie réussie, avec 10 clés que vous nous confiez. Alors, du coup, pourquoi 10 pour réussir sa vie? Pourquoi 10 clés? Comme ça, au hasard?
Pas tout à fait.
Pas tout à fait.
Parce que j'aurais aimé en avoir 7, parce que j'aime bien le chiffre 7. C'est le nombre d'or, c'est un très beau chiffre. Mais quand j'ai eu écrit 7 clés, j'étais frustré. Je me suis senti obligé d'en rajouter 3. J'aurais peut-être pu aller jusqu'à 12 même.
Mais c'est
bon,
vrai ouais.
Je me suis dit ça va être trop.
Trop.
Donc j'ai essayé de limiter au maximum. Je n'ai pas arrivé à descendre en dessous de 10.
Bon, mais 10 en même temps, c'est bien, c'est la dizaine. Alors. Donc, j'ai choisi de dérouler avec vous quelques clés parmi les 10. On n'aura certainement pas le temps de les voir toutes. Et j'ai pris la deuxième. Et la deuxième, si vous vous souvenez...
Dites-moi tout.
Est celle qui ouvre la porte de la découverte d'expériences nouvelles, qui nous invite à nous déplacer, nous dites-vous. Vous écrivez page 55, c'est en nous confrontant à de l'institué différent que nous percevons l'institué qui nous dirige. Alors voilà, question d'institué, des expériences nouvelles, ça fait partie de
Je crois que ce qui était très important, c'est de savoir, de connaître un tout petit peu ce qui nous détermine. Si on veut être libre, je ne crois pas que la liberté, ça soit la négation ou le déni du déterminisme, si vous voulez. Et donc, je crois que ce qui est très intéressant, c'est de voir que nous sommes constamment déterminés. Je vais donner des exemples triviaux. Il y a 20 ans, quand j'allais à mon bureau, je portais une cravate. Au même bureau aujourd'hui, il n'y a plus personne qui porte une cravate. Ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle de l'institué. L'institué voulait que ceci, l'institué veut que cela. Chez les jeunes aujourd'hui, l'institué veut qu'il porte une barbe de 3 jours en permanence. Voilà, bon, mais alors c'est pas de l'institué légal, c'est pas de l'institué formel.
L'institué
mais
social.
Mais c'est un surdéterminisme environnemental, social, relationnel. Et ce surdéterminisme, il faut en avoir conscience. Il faut se dire, est-ce que ce surdéterminisme, il me convient, il me va, il est en moi quelque part en résonance avec quelque chose de moi. Si je fais ce que je fais uniquement pour correspondre à la demande de mon environnement, sans qu'il y ait une dimension qui m'appartienne moi-même en moi-même, je crois qu'à ce moment-là, on perd toute liberté et qu'on subit sa vie et qu'on ne la vit pas.
Première clé, en tout cas pour nous aujourd'hui dans cette émission, ce n'est pas la première du livre. Alors, une autre des clés pour réussir sa vie dans le cadre de cette intelligence intégrative dont peu à peu nous allons certainement pouvoir la définir, probablement à la fin de l'émission, cette intelligence intégrative, Pierre Vineau, c'est de chercher à créer du hasard. Alors ça, c'est étonnant. On a l'impression, quand on dit le hasard, c'est ce qui nous arrive, qu'on n'a pas choisi. Mais là, vous nous dites, créer du hasard.
Créer du hasard, c'est merveilleux. Et alors, c'est facile en plus. C'est très facile. Parce que, en fait, je voudrais pas faire trop, mais c'est la théorie du chaos qui crée le hasard. Hein. En fait, ce que nous dit la physique moderne, c'est que ce qui se passe pourrait ne pas se passer. Alors, quand je dis créer du hasard, c'est être sensible à ne pas subir et donc à inventer à des moments des petits événements qui vont orienter différemment votre vie. Alors, je crois que c'est vrai qu'au mois de décembre, vers la fin décembre, au début de l'année, chacun souvent on prend de grandes intentions. Cette année, je ferai plus de sport. Cette année, je maigris. Cette année, je ceci. Cette année, j'ai un grand projet. Et puis, 3 mois après, on sait bien que le grand projet n'a rien changé à votre vie. Donc,
si même avant 3 mois, souvent.
Oui, hein,
c'est très rapide.
C'est parfois 3 jours, mais bon. donc en fait, il y a un autre mode qui me semble extrêmement intéressant et qui est extrêmement fort, c'est les petits changements qui vont changer le cours de la vie. Et ça, c'est extrêmement fort. Et c'est pas de la psychologie, c'est de la physique quand je dis ça. C'est Henri Poincaré qui dit « La vie, elle est sensible aux petites variations. Et une petite variation peut créer... C'est le battement d'ailes du papillon au Brésil qui crée la tornade au Texas. Eh bien, c'est exactement ça. Vous modifiez un petit truc et toute votre vie va changer de cap. Et ça, c'est intéressant de connaître cela parce que vous pouvez, à partir de là, gérer en vous-même et autour de vous des petits changements sans vouloir savoir obligatoirement sur quoi ils vont déboucher. Mais vous savez qu'ils vont déboucher sur quelque chose.
Je propose une pause musicale, Pierre Vinault, avec un jeune chanteur français, un jeune chanteur de 25 ans, qui parle du genre, qui exprime sa vie de jeune adulte avec un réel talent. C'est Eddie De Preto, La Fête de Trop.
Tu sais, tu sais, ce soir j'ai vu tous les joyaux de la pop. J'ai même bu à outrance toute l'absinthe de tes potes. J'ai côtoyé du rare nymphe, pris des rails en avance dans des salles bien trop noires, sans lueur d'élégance. Davantage j'ai serré mes mâchoires lamentables et zélé des amants, des garçons de passage que j'ai tenté d'approcher, mais que ma mascarade a fait fuir lentement par sa froide emmoussade. Alors j'ai rempli ma panse avec de vives urgences, autant vives que ivres sur la piste de danse. J'ai ajusté mes pansements pour que mes saignements soient beaucoup moins apparents sur la piste d'argent. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite et faite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Tu sais, ce soir j'ai lu dans mon corps relâché le manuel torturé de cette danse exaltée. J'ai même glissé ma langue dans des bouches saliveuses, dans de tout petits angles où l'on voit que les muqueuses. Puis là, je suis rentré bel et bien les mains nues, avec cet air déjà vu et l'envie de surplus. J'ai rien trouvé de précis, excepté d'apparence, exactement même si demain tout recommence. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, défaite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, défaite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Danse. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, défaite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos.
toujours sur FM Plus 91 FM avec Eddy de Pritto que nous avons choisi pour illustrer notre conversation avec Pierre Vineau, l'auteur de son dernier essai. Je cherche le titre que j'avais sur ma feuille. Vivre sa vie et non la subir, les 10 clés d'une intelligence intégrative pour réussir sa vie. Alors, il ne faut pas être effrayé, Pierre Vineau, par les références scientifiques, littéraires, philosophiques que vous apportez, parce que vous accompagnez réellement le lecteur dans cette réflexion-là. C'est pour vous comment vous identifiez ces repères littéraires que vous parsemez dans votre livre, et même plus que parsemez, d'accord, d'ailleurs. Vous en faites des exemples, je trouve que c'est très agréable.
J'ai essayé d'en faire le moins possible, mais en même temps, c'était une question d'honnêteté. C'est-à-dire que la pensée que j'exprime, elle n'est pas mienne. La pensée que j'exprime, elle est nourrie, elle est constituée d'une pensée surdéterminée, en quelque sorte, et d'une pensée qui existe. Qui a existé, ma pensée, elle était déjà dans le passé, elle sera sans doute dans le futur. Et donc, elle s'inscrit. Et donc, comme j'aime pas dire que ça, c'est intéressant, sans dire d'où ça vient, par quoi ça a été constitué en moi, je me sens obligé de citer les quelques auteurs que j'ai lus.
D'autant que vous vous appuyez aussi sur des courtes histoires du quotidien, oui. Dans lesquelles on peut très bien s'identifier.
Tout à fait. Mais c'est volontaire parce que, en fait, je crois que ce qui nous parle, c'est ce qu'on a vécu. Peut-on parler d'amour si on n'a jamais souffert d'amour? Peut-on comprendre la souffrance de quelqu'un qui vient de perdre son père, son enfant ou sa mère? Si on n'a jamais su ce que c'était que la mort et la séparation. Je crois qu'on ne peut comprendre que quelque part que ce qu'on a vécu quelque part, que ce qui nous a touché à un moment donné. Sinon, alors, c'est pour ça que j'ai essayé à chaque fois qu'il y a une idée de dire, dans la vie quotidienne, dans votre vie, vous n'avez peut-être pas encore eu cette idée-là ou vous n'avez pas encore rencontré cette idée-là formalisée, mais vous avez déjà vécu des situations où cette idée-là était présente. Et j'essaye de rappeler cela.
Alors, le chapitre 5 a pour moi une tonalité particulière dans tout le récit que vous nous faites. Dans le chapitre 5, il est question de la mort.
Oui.
Et vous mettez en exergue une citation de Krishnamurti. Ne mettez pas d'obstacle au mouvement de la douleur, laissez-le mûrir. Alors là, ça a une tonalité particulière parce que autant dans le reste du livre, je trouve qu'il y a quand même une idée de présence à soi, de pas d'activisme, mais quand même d'être là en train de capter tout ce qui pourrait nous faire évoluer dans notre vie. Et là, par rapport à la mort, à la douleur, à la souffrance, vous choisissez Krishnamurti. Laissez mûrir le mouvement de la douleur.
Tout à fait, parce que le déni n'a jamais été... C'est un très bon, disons, paravent par rapport à un certain nombre de choses. Ne pas voir la réalité, c'est une très bonne stratégie. Mais ce n'est peut-être pas la meilleure. Et donc, par rapport à la mort, justement, notre société, l'institué de notre société, nous empêche d'en parler, nous empêche de la vivre. D'ailleurs, on ne dit pas... Vous avez remarqué, dans la vie courante, on dit « Jean est parti ».
Il est parti se promener, on ne sait pas trop.
On ne sait pas où il est parti. Il est parti s'il est décédé. On ne dit pas « il s'est donné la mort ». On dit beaucoup plus facilement « il a mis fin à ses jours ». Mettre fin à ses jours, pourquoi dire « il s'est donné la mort », c'est plus dur. Le mot « mort », il nous fait mal. Le mot « mort », il nous blesse. Donc, on ne veut plus le voir, on ne veut plus en parler, et la vie est déifiée dans notre société instituée. Et donc, j'ai essayé de dire, finalement, non. La mort fait partie de la vie. La mort, c'est un acte, si je puis dire, naturel. C'est un événement naturel plutôt qu'un acte. Et donc, parlons-en, faisons-la, laissons-la vivre cette mort.
Alors là, on parle de la mort. Si l'auditeur prend en cours de route cette émission, il ne s'agit pas uniquement de la mort, parce que le titre du livre de Pierre Vineau, c'est « Vivre sa vie et non la subir ». D'autant que c'est un livre extrêmement dynamisant et vous y abordez la question du désir de vivre, que vous distinguez de l'envie ou de la volonté. Alors qu'est-ce que c'est que le désir selon Pierre Vinault et sa culture dont il témoigne.
Non, je ne vais surtout pas faire de citation. Non, vous ne me piégerez pas. Le désir, c'est le feu de la vie. Je pense qu'une personne sans désir est une personne qui ne vit pas. Je crois que le désir, c'est même un des ressorts essentiels. Et nous devons... Et c'est ce que j'essaye de dire dans mon petit livre, tout simplement, c'est que, sachant que le désir, c'est le feu de la vie, soufflons sur les brèves dès que nous en voyons une. Parce qu'il faut cultiver le désir, il faut le créer en soi et chez les autres. Je sais pas, mais en tant que parent, si on a des enfants, une des préoccupations qu'on pourrait avoir par rapport à ces enfants, c'est de dire qu'est-ce que je vais générer chez eux comme désir de vivre, comme désir d'exister, comme désir dans la vie. Un enfant sans désir, c'est un enfant qui n'a pas de vie.
D'ailleurs, vous dites aussi que le parent, s'il consacre sa vie pour son enfant, finalement, l'enfant, il va se sentir... malheureux par rapport à ça. Il faut d'abord vivre sa vie, sans négliger bien sûr son entourage, mais si on satisfait son propre désir de vie, finalement l'enfant va en être bénéficiaire.
Tout à fait. Alors là, si vous me permettez, Guylaine, j'aurais une petite citation, référence. Je ne peux pas me dire que j'ai inventé ça. C'est Aldo Nauri qui m'a donné cette idée-là, et je l'en remercie. Aldo Nauri, un jour, je le lisais, et dans un de ses livres, un chapitre s'appelle « Parents ». La première phrase, c'est « Parents, ne jamais se sacrifier pour vos enfants ». Je lis ça, je me dis « Mais c'est bête !» Le rôle des parents, au contraire. Le parent, pour moi, dans mon image d'Épinal, c'est le pélican qui s'ouvre le ventre pour nourrir sa progéniture. Pas du tout, dit Aldo Nauri. Pas du tout, parce que le prix à payer de ce sacrifice est énorme. Et si un enfant perçoit que sa mère ne vit pas sa vie, n'a pas vécu sa vie parce qu'elle est restée à la maison pour l'élever, il y a un prix à payer. Et ce prix, il est très cher. Si les parents donnent à leur enfant l'idée qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas partir en vacances comme ils veulent, ils ne peuvent pas faire telle, je ne sais pas quoi, activité qu'ils voudraient faire, parce qu'il faut qu'ils s'occupent de leur enfant. L'enfant est ravi qu'on s'occupe de lui, bien sûr, mais le prix à payer dans l'inconscient qu'il se construit sera très fort. Donc ne vous sacrifiez jamais pour vos enfants, dit Aldo Nauri, et j'ai très volontiers repris cette idée.
Alors, on a fait un peu le tour de votre essai en abordant les différentes clés. Il y en a 10, on en a vu 4 ou 5. Et on arrive presque à une définition avec tout ça de l'intelligence intégrative. Mais vous nous la donnez aussi, cette définition avec vos mots à vous. Et vous nous dites, l'intelligence intégrative permet d'accepter à la globalité de notre être, de réduire la fracture entre le conscient et l'inconscient. Alors moi, je me suis dit, mais finalement, est-ce que accéder à notre intelligence intégrative ne serait-ce pas l'équivalent d'une analyse ?
Vous savez, tout le monde ne va pas aller dès demain matin s'analyser. Donc, en analyse, comment dirais-je ? Non, tout simplement, c'est accepter... Je reprendrai un mot à la mode, je vais faire comme les autres. C'est presque commencer une première étape de la pleine conscience. C'est-à-dire de prendre conscience, l'intelligence intégrative, c'est la prise de conscience de l'ensemble de votre vie, de ses déterminants, de son chemin, de son passé, de son futur. Et c'est intégrer, intégrative, c'est intégrer les différentes intelligences que nous connaissons bien. L'intelligence rationnelle du polytechnicien ou de l'ingénieur.
D'ailleurs, vous précisez très très bien au début du livre. Oui. Vous identifiez très très bien toutes ces intelligences.
Pardon.
Non, je vous en prie, continuez, pardon.
L'intelligence rationnelle, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence systémique, chère à Edgar Morin, l'intelligence, ces intelligences-là, eh bien, chacune éclaire une partie de notre vie, nous permet de comprendre notre environnement, mais... S'il n'y en a qu'une qui est utilisée, eh bien, nous ne voyons pas la totalité des choses. Et l'intelligence intégrative, en intégrant, mais le tout, vous le savez bien, est plus que la somme des parties. Donc l'intelligence intégrative, ce n'est pas seulement de l'intelligence rationnelle, plus de l'intelligence émotionnelle, plus de l'intelligence je ne sais pas quoi. C'est quelque chose qui est formé de ça, mais qui le dépasse.
Merci Pierre Vinault.
Merci.
Et bon vent à vivre sa vie et non la subir. Les 10 clés d'une intelligence intégrative pour réussir sa vie aux éditions Les Impliqués. Vous faites une signature samedi à la librairie Gibert, samedi 10 mars à Montpellier.
Oui.
On peut vous y trouver et continuer la conversation.
À 15h.
À 15h.
À 15h à la librairie Gibert. Je serai heureux d'entendre les réactions et les questions que vous pourrez me poser si vous venez.
Merci Pierre Vinault. Au revoir.
Merci. Au revoir.